Colette Nimard, bonjour.
Oui, bonjour. Bonjour.
Vous êtes la responsable de la galerie. Vous pouvez nous rappeler son nom et vous représenter à nouveau, s'il vous plaît. On vous a connu auparavant
dans
un autre secteur, mais c'est toujours là, n'est-ce pas?
Tout à fait. Alors, je suis effectivement Colette Nimard et je suis responsable de la galerie Colette Nimard, tout bêtement. C'est le nom, tout simplement. Et cette galerie a réouvert il y a à peu près une année maintenant, plus ou moins, puisqu'elle a existé ici entre 2000 et 2006. Ensuite, elle a été fermée parce qu'il y a eu tous les travaux du quartier avec la tour Lumina. Et voilà, donc on a réintégré notre espace. Et la politique de la galerie est toujours la même, donc présenter divers courants de la peinture haïtienne, comme j'avais fait au départ. Et puis avoir aussi un accrochage permanent, une présentation d'artistes de la Caraïbe proche, enfin des Antilles françaises, de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Guyane, toujours effectivement Haïti, aussi dans des artistes un peu plus contemporains que classiques comme on les connaissait, et puis de la sculpture et aussi quelques artistes africains au niveau de la sculpture et des travaux de peinture.
D'accord. Disons que vous êtes effectivement assez tendance caribéenne, on va dire, dans un premier temps. Afro, certainement.
Oui, alors afro, pourquoi? Parce que, voilà, j'ai des liens. Hein. Je suis née au Burkina Faso, j'ai vécu au Niger très longtemps. Donc, au niveau du cœur, il y a cette espèce d'envie de relation, de fil conducteur. Et puis, la galerie est ouverte à toute forme de création contemporaine et art, que ce soit peinture, toile, œuvres sur papier, sculpture. Également, là, nous avons une sculpture, par exemple, en terre cuite, en céramique aussi.
Elle est de qui, celle-ci?
Alors, celle-ci est d'une artiste qui s'appelle Lusa Cuesta et qui est colombienne. Donc voilà, on n'a pas de frontières, disons une ouverture dès que ça rentre un petit peu dans la ligne de choix de la galerie, la ligne artistique, disons.
Est-ce qu'il est évident de faire danser les images à la Martinique et la peinture en particulier?
Alors, faire danser les images, pas de souci. Je pense que c'est très facile, il n'y a pas de souci, ça se fait beaucoup. Après, arriver à mettre en place une activité qui soit pérenne, qui soit bien sûr en lien avec l'acquisition des œuvres, ça c'est un petit peu plus compliqué. Mais là, on tombe dans
la passion
du marché de l'art et de l'existence d'un marché de l'art, par exemple, en Martinique.
Oui, alors vous savez que nous sommes très attachés à toutes ces notions, puisqu'en réalité, toutes les démarches que nous avons vis-à-vis de l'art consiste essentiellement à imaginer qu'on puisse se faire un marché de l'art. Alors, on aimerait avoir un peu votre expérience sur la chose. Vous avez quand même tenu déjà dans un premier temps 6 ans. Vous avez fermé ensuite parce qu'il y avait les travaux. Et là, vous reprenez le défi. Ça veut dire que vous y croyez tout de même.
Oui, alors j'y crois. Bon, clairement, c'est un métier de passion. Hein. Si on doit rester dans du rationnel, je pense que c'est très difficile de tenir. Donc, c'est vraiment la passion qui m'anime. J'ai la chance aussi d'avoir au niveau familial un soutien qui fasse en sorte que bon, je puisse continuer l'expérience et l'aventure. Mais le marché est quand même très très compliqué, très difficile. D'ailleurs, à cette occasion-là, vous allez avoir une table ronde sur le marché de l'art, l'action des mécènes, l'action de la sponsorisation aussi, qui va se tenir et qui est mise en place par un artiste qui s'appelle Luis Pernier, qui est vénézuélien. Ça va avoir lieu à l'Impératrice mardi, qui arrive à 17h. Donc ça, c'est aussi un petit point d'intérêt que je glisse. Mais pour revenir, c'est effectivement assez compliqué parce qu'on a pris en Martinique aussi l'habitude de consommer de l'image. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure de la facilité de faire danser les images. Et quand je dis consommer, c'est-à-dire qu'on va d'exposition en exposition, on voit les œuvres, on acquiert ou on n'acquiert pas, souvent on n'acquiert pas, mais on passe d'une exposition à l'autre, on découvre, on est content, on rentre chez soi, on n'a pas forcément de tableau.
Ça veut dire tout de même qu'il y a un intérêt si les gens y vont.
Il y a un intérêt, très net. Il y a un intérêt très net. Après, le déclenchement de l'acquisition, c'est encore autre chose.
Est-ce que ce n'est pas aussi une question de prix? Parce que ici, je regarde l'ensemble de ces œuvres qui sont magnifiques, qui sont très belles. Celle qui m'a plu, elle coûte 5 600 €. Quoi. Enfin, je veux dire, ça veut dire que ça représente un budget. C'est parfois, pour certains, la moitié d'un salaire aussi, ou de salaire annuel, j'entends bien, pour certains. Donc, ce que je voulais savoir, c'est est-ce qu'il n'y a pas lieu d'imaginer aussi de dériver, par exemple, à partir de tableaux principaux, d'imaginer que certains puissent acheter une affiche, quoi, par exemple.
Alors, je vais être très, très, très claire et très nette. 5 600 € le tableau dont vous parlez, c'est un prix tout à fait acceptable, normal et qui n'est pas...
Très certainement, pas... je remets pas le prix en cause, hein, je dis simplement, d'accord. Je parle de la capacité à acheter.
Après la capacité à acheter, j'ai été souvent étonnée de personnes qui n'ont pas forcément des capacités, mais qui ont acheté des choses importantes. Donc c'est pas, il n'y a pas la liaison prix et acquisition qu'on pourrait imaginer. En plus, au niveau des galeries, même les artistes font des conditions de paiement qui permettent une acquisition au fur et à mesure. Donc ça, je pense que ça ne rentre pas en jeu. En plus, si vous avez vu dans la galerie, vous avez certaines pièces originales qui sont autour de 400 €. Donc, c'est extrêmement variable par rapport à l'artiste et à sa notoriété, à sa démarche. Donc, je ne pense pas que ça rentre en jeu. Je reste vraiment, moi, sur le point de la consommation. C'est-à-dire qu'à un moment, on a eu énormément d'expositions dans des lieux publics, des lieux privés, des garages automobiles, etc. Et les gens passaient d'une exposition à l'autre. On consommait de l'image, comme on consomme au supermarché, hein, de la même façon. Donc là, il y a un vrai travail à faire, à mettre en place.
Est-ce que l'éducation ?
Un travail d'éducation qui se fait très clairement, mais qui est long, parce qu'il faut qu'il y ait une éducation aussi aux futurs acheteurs. L'autre chose qui existe, comment je pourrais dire ça ? Pendant très longtemps, en Martinique, comme en Guadeloupe d'ailleurs, hein, ça a changé depuis une quinzaine ou une vingtaine d'années, mais pendant très très longtemps, on faisait l'acquisition à des prix beaucoup plus importants que ce que vous avez vu aujourd'hui, mais de galeries ou de propositions qui venaient de l'extérieur, et en particulier de l'Europe. Donc là, on achetait quel que soit le prix, et on touchait une clientèle qui avait les moyens et qui achetait. Par contre, qui n'était pas en choix personnel de soutenir les artistes du pays.
De la région, de la zone.
Donc, dès que ça devenait de la zone, c'était très cher.
Très bien.
Mais quand c'était de l'extérieur,
c'était pas cher du tout.
On ne se posait pas.
Il y a effectivement une question de lecture de soi, très probablement.
Donc, une lecture de soi, une éducation très forte à mettre en place. Je trouve que le marché a évolué, hein. Il y a quand même beaucoup plus de personnes maintenant qui font la démarche d'acheter à leurs moyens, hein, en fonction de leurs moyens, mais ça reste encore un long parcours.
En tout cas, Colette Nimard, nous on est très heureux de visiter cette galerie. Vous allez aujourd'hui nous présenter un des artistes que vous présentez. Vous allez nous dire son nom, vous allez nous dire qui il est, et puis nous allons nous entretenir avec lui. Alors, vous nous présentez qui aujourd'hui ?
Alors, j'ai le grand plaisir de vous présenter Jocelyn Akwaba-Matignon, qui est un artiste guadeloupéen, qui me rend souvent visite en Martinique, et que j'ai le plaisir de représenter de façon quasiment permanente dans la galerie. Voilà, donc il va pouvoir vous parler un petit peu plus de sa démarche, et puis on a quelques projets qu'on essaye de mener ensemble pour les jours à venir.
Très bien, Jocelyn Akwaba-Matignon, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes très présent, je sais, sur Facebook.
Ah, c'est possible.
Je me demande même si nous ne sommes pas amis.
C'est possible.
En tout cas, comment dire, aujourd'hui vous êtes à la Martinique, vous pouvez vous représenter et nous parler de vous.
Ben, je suis Jocelyn Akwaba-Matignon. Que dire ? Ça fait un certain nombre d'années, je dirais à peu près depuis les années 2000, que je travaille sur la cosmogonie maya et la pensée amérindienne. Donc voilà, c'est un nouveau pan de mon travail, puisque avant je travaillais donc dans l'esprit de la terre. Donc j'allais dans les forêts, j'utilisais les éléments de la forêt, la terre, la cendre, les écorces, les feuilles, que j'intégrais à mon travail.
Un peu comme Coco et les corails.
Oui, ben voilà, de toute façon, rien de nouveau sous le soleil.
C'est ça, mais vous n'y mettiez pas le feu.
Ah non, non, non. Ou alors c'est un feu intérieur,
voilà.
Moins visible. Mais ensuite, je suis parti en Afrique, donc Burkina Faso, Bénin. Et là, donc, je travaillais sur l'esprit du masque. Parce qu'en fait, sur ce qui est visible ou invisible. Et donc, ma troisième partie, là, maintenant, c'est la partie amérindienne.
Oui, voilà. Ça veut dire que votre œuvre a trouvé un autre écho ailleurs. Enfin, disons, vous êtes revenu à la résonance essentielle, sans doute.
Oui, sûrement. C'est un périple triangulaire entre l'Europe, l'Afrique et l'Amérique.
Oui. Et là, vous avez trouvé quoi? Vous avez trouvé une justification de ce que vous faisiez ou vous avez trouvé votre style?
C'est un cheminement. Donc forcément, cheminement, ça s'appuie sur l'ancien, sur ce qui a nourri le chemin, et ça permet aussi d'ouvrir vers autre chose. Ici, nous sommes sur des terres essentiellement amérindiennes, et aussi qui étaient en connexion avec l'Amérique centrale du Nord et du Sud. Voilà. D'ailleurs, ça ne s'appelle pas l'Amérique, d'ailleurs. Hein, bon. Donc, en fait, c'est tout un travail aussi bien pictural que de recherche profonde sur la symbolique du monde amérindien et qui nourrit mon travail. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, chaque toile me transforme.
D'accord.
Puisque c'est un aller-retour.
Oui. Alors, je vous propose que vous nous invitiez à rentrer dans les toiles. Vous avez parlé de recherche. Ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que vous avez plus une dimension presque de designer également, hein, puisque vous réinterprétez et vous rendez accessible. Alors, ce que j'aimerais, c'est que vous puissiez nous donner les clés pour lire vos œuvres. Parce que je remarque notamment que vous avez souvent ces petits personnages, presque des petits poissons, ou des yeux, je ne sais pas ce que c'est exactement, vous allez nous dire. Est-ce que vous pouvez nous donner les clés pour pouvoir lire, alors, par exemple, une œuvre comme celle-ci?
Alors, on peut, d'une manière générale, regarder une œuvre comme on regarde un nuage dans le ciel, c'est-à-dire sans parti pris. On laisse son esprit vagabonder, ça c'est la première manière de faire. C'est comme lorsqu'on écoute un morceau de musique, on ne se dit pas, tiens, je vais retrouver le bruit des oiseaux ou le bruit de la rivière. On se laisse porter, ça c'est la première manière. Maintenant, si on veut avoir des clés pour rentrer un petit peu plus dans ce que j'ai dans ma recherche, voilà, dans ma recherche, on peut dire qu'à une certaine époque, j'ai un personnage qui est apparu dans mes rêves, qui s'est présenté à moi et il s'appelle un Kiyukan.
Qui ou quand?
Qui ou quand? Alors ça veut dire qui, où et quand.
Oui.
Voilà, tout simplement.
C'est vraiment les questions de l'interrogation fondamentale.
Oui,
qui ou quand.
Voilà, je crois que c'était Gauguin qui s'était posé. Il avait fait une toile qui s'appelait Qui sommes-nous? Où allons-nous? Que devenons-nous? C'est les questions existentielles que tout le monde se pose et que les artistes aussi se posent énormément. Puisque une œuvre, c'est toujours une fenêtre vers quelque chose.
Alors, ça, c'est une première chose. Le qui ou quand, alors là, par exemple, il est représenté par quoi?
Il est toujours là.
Il est toujours dans...
Alors, il a une tête en forme d'amande.
Oui.
Alors, la forme d'amande, c'est symbolique aussi. Hein. Une amande, c'est une graine. Mm-hmm. C'est la forme de la graine.
Il est un peu pieuvre aussi, non?
Toutes sortes, puisqu'il a, il a des bras qui ressemblent à des pieds qui ressemblent à des bras. Bon, voilà. On peut y retrouver le spermatozoïde ou la langue de feu. Enfin, c'est toujours multisens.
C'est ça, avec un personnage dynamique en même temps.
Voilà. Donc, la tête du Kiyukan, c'est une tête qui est en forme d'amande, c'est-à-dire constituée de deux cercles. Donc, un cercle masculin, un cercle féminin. L'intersection, c'est l'amande. C'est l'œil, c'est la bouche, c'est le sexe féminin. En fait, ça représente dans la symbolique une porte. Voilà. Quand on a une forme comme ça, ça veut dire que derrière, il y a une porte vers autre chose. Et quand on regarde le tableau, là, on voit bien que derrière, il y a quelque chose. Voilà. Parce qu'en fait, ma peinture est construite, je fais
vous
d'abord...
Avez, vous avez toujours cette espèce de colonne vertébrale...
Non,
là, oui, en tout cas, dans ce cas-là.
Voilà,
là, la bande noire, quoi, c'est ça?
Là, c'est un symbole sur la dualité.
Okay.
En liaison avec le serpent à plumes, qui est l'esprit de la terre et l'esprit du ciel. Mais surtout, en fait, ce qui semble être le fond n'est pas le fond. Parce qu'en fait, ici, par exemple, je termine par le noir et le blanc. J'ai d'abord fait le fond coloré.
D'accord, ok.
Donc, c'est pour ça.
Ouais, on aurait pu penser le contraire.
On aurait pu penser le contraire. Mmh. Ça, c'est une première chose. La deuxième, c'est que sur certaines toiles, pas toutes, mais par exemple celle-ci, j'intègre du phosphore. Donc en fait, ce qui veut dire que la journée, je vois ça, mais dans l'obscurité totale, je découvre autre chose. Et là, ce qu'on découvre dans celle-ci, c'est le monde, enfin, moi j'appelle ça en Guadeloupe, les clins d'indins, les lucioles. Mmh. Voilà, ça fait un peu comme des lucioles.
Et les bêtes à fées.
Voilà, bêtes à fées. Voilà. Donc,
ça veut dire aussi que le tableau, il est éclairant.
Voilà, il est éclairant et puis il est vu aussi bien, il donne autre chose la nuit que le jour. C'est-à-dire, voilà, deux aspects différents.
D'accord. Alors, s'il est éclairant, ça veut dire aussi que vous avez un regard sur ce qui se passe, c'est-à-dire sur l'actualité, sur les événements, sur la Guadeloupe d'aujourd'hui, sur l'évolution des choses. Est-ce qu'il vous arrive aussi de peindre la réalité du pays ?
La réalité du pays, elle est peinte de façon symbolique. C'est-à-dire qu'en fait, je ne me suis jamais posé sur les actualités pour travailler. C'est plus sur des choses de fond. Voilà, qui en fait sont plutôt intemporelles. C'est-à-dire les questions que tout à l'heure, comme le qui ou quand, qui sommes-nous ? Que ça soit la question, elle soit posée maintenant ou dans 500 ans, il y aura toujours quelque chose
d'accord,
de permanent.
Ça, c'est vos thématiques de base.
Voilà.
Qui, où et quand.
Voilà. Donc en fait, jamais je n'ai travaillé pour rendre un visuel sur un élément de la vie de tous les jours, entre guillemets les faits divers, ou un fait politique ou autre. Non. En fait, ça est forcément que ça vient me nourrir, puisque je suis debout dans un pays, dans un environnement, en relation avec l'autre. L'autre me nourrit aussi, hein, c'est un jeu de miroir. Donc tout ça, ça constitue mon travail. Mais je ne le restitue pas sous la forme d'une émotion politique ou d'une émotion... voilà, je souhaite que ça soit... Un peu caché, d'accord. Un peu en profondeur.
Oui, c'est ça. Vous n'avez pas, disons, que votre interpellation n'est pas à ce niveau-là, quoi. Elle est essentiellement artistique avec l'expression de ce sur quoi vous travaillez, ce qui est formidable. Alors, nous allons essayer de savoir aussi, puisqu'on demandait tout à l'heure à Colette Limard là, comment on peut aujourd'hui vivre de son art, puisque c'est aussi... Notre approche, vous savez que sur nos supports ici, Martinique et autres, notre volonté est de développer la question de l'art et de considérer que l'art peut être un secteur économique. Alors, à ce niveau, avec le talent que vous avez, la beauté de vos œuvres, comment vous arrivez à vivre de tout ça ? Est-ce que vous vendez directement ? Est-ce que vous dérivez ? Comment vous vous organisez ?
Il y a plusieurs axes de travail, on va dire. Déjà, je voudrais dire avant que la peinture, c'est comme un sacerdoce. On ne le fait pas au départ en se disant, voilà, on va gagner de l'argent. On le fait parce qu'on est porté par quelque chose, quelque chose qui nous porte. Bon, voilà. Mais en même temps, il faut bien boire et manger et vivre. Alors, ce n'est pas toujours évident, surtout quand on vit dans une île, comme la Guadeloupe ou la Martinique. Bon, c'est assez... Voilà, on est sur une île. Donc, on a besoin aussi de créer des ponts avec les autres.
À ce titre, j'ai cru comprendre que vous aviez fait, je crois, l'année dernière ou il n'y a pas très longtemps, une super exposition en Corée du Sud,
voilà.
Qui avait été assez extraordinaire. Oui. Corée qui est un très beau pays avec des gens curieux.
Ah, extraordinaire.
Ça s'est passé où ? À Séoul ?
Donc c'était dans le cadre de l'année France-Corée, donc qui pour la commémoration des 130 ans des relations diplomatiques.
Avec l'Alliance française, je suppose.
Entre la France et la Corée. Donc là-bas, j'ai présenté pendant 2 mois une quarantaine d'œuvres que j'ai fait pour ça. J'ai passé 1 an à les concevoir. Sur place, j'ai fait une roue de médecine amérindienne avec les matériaux de la montagne, des montagnes coréennes, voilà, avec une symbolique.
Vous avez dû remarquer que, par exemple, ils ont un regard assez particulier sur la montagne. Ils ne construisent jamais en haut des montagnes,
Tout à fait, parce que les montagnes sont sacrées. Il n'y a pas de route, il n'y a pas de maison. Et quand on regarde effectivement Séoul, ben, toutes les collines et les montagnes sortent de façon naturelle. Voilà, ça c'est
assez remarquable.
Ça c'est pas mal, ouais. Bien sûr.
Alors, vous avez fait cette exposition, vous avez eu un grand succès, je suppose, là-bas, parce qu'ils sont très curieux, les Coréens.
Tout à fait, ouais. Vraiment, c'est extraordinaire. Puis on apprend des choses, la façon de gérer l'environnement, la façon de placer, ne serait-ce que par rapport à l'écologie.
Vous avez retenu Kansam Mida
et Anyong Aseo. Et puis, ce qui m'a intéressé, alors, en juillet, août, là, récemment, là, je suis allé donc 2 mois au Guatemala, parce que c'est un pays que j'affectionne beaucoup, puisque c'est le monde maya.
Oui.
Et en fait, il y a des corrélations entre...
Des quantités de couleurs, là aussi.
Voilà, on retrouve des liens entre le monde maya et le monde coréen. Ne serait-ce que la sauvegarde le côté sacré des montagnes, des personnes aussi, physiquement. vraiment on pourrait les prendre pour des Coréens. Et puis, je dirais, toute la symbolique. La symbolique du pays, il y a des choses, il y a des liens.
D'accord. Alors, résultat, donc, comment vous faites ? Vous vendez vos œuvres, principalement, ça se vend bien ?
Ben, je vends soit directement, ça m'arrive de faire même des expositions chez moi, parce que ça, c'est un petit côté un peu plus intimiste.
Oui. Voilà. Pour des amis.
Voilà, pour des amis. Ou... Mais enfin, c'est toujours, c'est pas public, hein. Oui. C'est pas forcément public. Donc, ils visitent l'atelier, ils visitent la maison. Bon, voilà, il y a une approche, une rencontre.
D'accord. Et vous faites des modèles pour la reproduction ?
Non, pour l'instant, je ne fais pas de modèles pour la reproduction. J'ai quelques personnes qui font de la, comment on appelle ça, de la reproduction d'œuvres d'art. Sur des paréos,
oui,
sur
des objets. Oui, c'est ça que
voilà,
je pensais.
Ça. Ah ben voilà, c'est ça. Oui, oui, bien sûr.
Voilà. Ça marche bien. Je veux dire, un t-shirt sur ça, un paréo comme ça. Enfin bon, c'est des produits qu'on achète. Quoi. Parce que c'est vrai que c'est ce que je disais tout à l'heure à Colette. Je considère que ça, c'est le prototype. Quoi. Et puis à partir de ça, vous dérivez au maximum.
Voilà, on fait des objets dérivés.
Oui. Bon, alors, on voit donc qu'il y a des possibilités. Comment vous transmettez-vous aujourd'hui votre savoir ?
Je travaille avec des écoles, les enfants, parce que les enfants sont les adultes de demain. Donc, c'est important. Voilà, j'interviens dans des écoles, tout d'accord. Simplement.
D'accord. Et puis là, vous êtes en Martinique, on revient donc à la galerie. Vous exposez jusqu'à quand ?
Je n'ai pas une exposition là en cours, on est en train de préparer quelque chose. Ici, je dirais, je présente toujours des toiles de façon un peu permanente, mais pour l'instant, il n'y a pas une exposition totale de mon travail. Ce qu'on est en train de préparer, c'est une rencontre avec mon amie Francisca, qui vient du Guatemala, qui est une guide spirituelle maya, et on va essayer de faire quelque chose, justement, entre ce que j'ai fait là-bas au Guatemala, et puis... son approche spirituelle du monde maya.
Eh bien, c'est parfait, on vous promet de suivre tout ça. On va essayer de manière régulière de venir vous voir. Je rappelle que vous êtes Jocelyn Akwaba Matignon. Mm-hmm. On peut vous retrouver sur les réseaux sociaux. Mm-hmm. Et vous avez un site internet particulier sur lequel vous pouvez nous donner l'adresse, s'il vous plaît.
C'est akwabamatignon.com.
D'accord, alors ça s'écrit comment, Akwaba ?
Akwaba. Et Matignon, Matignon. Alors, Akwaba, ça veut dire bienvenue en langue Akan, les Ashanti. Et Matignon, alors c'est le nom de mon père. Et Matignon, c'est ma mère, c'est les Blancs Matignon de la Guadeloupe.
D'accord, très bien. Merci et à bientôt.
Merci beaucoup.